La visite de la ministre des Outre-mer qui devait débuter demain matin est reportée. Report à la demande du Premier ministre en raison des échéances budgétaires qui se jouent en ce moment à l'Assemblée nationale. 2 novembre, une journée pour se souvenir. C'est aujourd'hui la journée des défunts, fête religieuse qui invite les vivants à se souvenir de leurs proches décédés. Les suites de l'enquête après le vol de bijoux au Louvre. 2 personnes ont été mises en examen. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunes, garde espoir de retrouver les bijoux. Un homme suspecté d'être un relais de Daesh en France, mis en examen par le parquet national antiterroriste. L'individu de nationalité afghane a été interpellé il y a quelques jours à Lyon. Le sport et le rugby. Et Toulouse qui s'impose sur le stade français. Les Toulousains l'ont emporté avec la manière 29 à 17 pour prendre seuls les commandes du top 14. Et puis en Calédonie, de l'équitation et une 30aine d'engagés participent ce week-end aux championnats territoriaux de dressage. Ça se passe au Yala Ranch de Dimbéa. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce journal. Naïma Moutchou, la ministre des Outre-mer, reporte donc, je vous le disais en titre, sa visite en Nouvelle-Calédonie. L'information a été annoncée très tard hier soir. Il était un peu plus de 23 heures lorsque le ministère des Outre-mer a communiqué, Michael Juneski.
En raison des échéances budgétaires majeures auxquelles fait face le pays, le Premier ministre a demandé à la ministre des Outre-mer, après en avoir échangé avec elle, de reporter de quelques jours son déplacement en Nouvelle-Calédonie, peut-on lire dans ce communiqué. Ce décalage permettra à la ministre de contribuer aux côtés des parlementaires à la finalisation d'une trajectoire budgétaire exigeante et équilibrée pour les Outre-mer, fidèle aux engagements du gouvernement et adaptée aux réalités de chaque territoire, indiquent également les services de la rue Oudinot. La Nouvelle-Calédonie, profondément marquée par les violences de mai 2024, demeure au cœur de cette mobilisation nationale. Le Premier ministre présidera une réunion de ministres dans les prochains jours afin de consolider les réponses de l'État en matière de soutien économique, social et institutionnel, peut-on encore lire dans ce court communiqué, transmis donc un peu après 23h hier soir.
Et alors, nous parlerons qu'une nouvelle date d'une éventuelle visite en Calédonie de la ministre des Outre-mer n'a été communiquée. Rappelons que Naïma Moutchou devait débuter demain matin à 9h30 sa visite sur le territoire. La ministre, elle devait se rendre dans les 3 provinces tout au long de la semaine et prendre le temps de rencontrer l'ensemble des élus, mais aussi des principaux acteurs du monde économique. Naïma Moutchou qui devait profiter évidemment de ce déplacement pour évoquer l'avenir institutionnel, le report des élections provinciales ou encore l'accord de Bougival. Le FLNKS veut-il un accord? C'est la question que pose Virginie Rufnac quand on l'interroge sur la situation de l'accord de Bougival et sur les prochaines étapes de sa mise en œuvre. La chef du groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie était vendredi midi l'invitée d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence, Michael.
Elle a été interrogée sur le processus législatif chaotique de la proposition de loi organique qui reporte les élections provinciales au plus tard au 28 juin 2026 et elle s'est dit soulagée de son adoption. Et quand on lui demande pourquoi l'intitulé de la loi a été modifié et qu'il ne fait plus allusion à Bougival, elle affirme que cela ne change rien sur le fond.
Ça ne change pas grand-chose sur la lettre. C'est une demande, vous l'imaginez bien, des socialistes qui souhaitaient montrer qu'il n'y avait pas de passage en force. Vous savez, il y a quand même 53 socialistes à l'Assemblée nationale qui ont voté ce texte. C'était des voix importantes pour pouvoir avoir une majorité sur ce report des élections provinciales et donc discuter pour un accord. Bon, les socialistes, ils sont dans leur ADN. Hein. Eux, ils veulent un accord à tout prix pour la Nouvelle-Calédonie. Et par ailleurs, ils sont embêtés que le FNKS se soit démis de l'accord parce qu'ils pensaient, en tout cas pour ce qui est du chef de groupe Arthur Delaporte de l'Assemblée, mais même du côté du Sénat, que l'accord de Bougival était un bon accord. En tout cas, c'était ce qui leur semblait. Ça les gêne beaucoup qu'il y ait une partie du monde indépendantiste qui se soit retirée des discussions et du travail après Bougival et qui ait remis en cause leur signature. C'est la raison pour laquelle ils ont demandé cette modification.
La loi justifie désormais le report pour permettre la poursuite de la discussion en vue d'un accord consensuel sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Mais, selon Virginie Rufnac, la marge de manœuvre est étroite.
Nous serons au rendez-vous de l'État, des indépendantistes, le rassemblement, et je n'ai aucun doute que les loyalistes également, pour faire valoir le fait que notre marge de manœuvre aujourd'hui, je considère qu'elle n'est pas du tout large, parce que nous avons fait les pas utiles et nous attendons qu'on fasse ces pas non seulement soient à la fois reconnus, et ils l'ont été à Bougival, mais aussi qu'eux-mêmes soient capables de s'engager. Et la vraie question qu'il faut savoir, le FNKS veut-il un accord? Veut-il réellement un accord pour la Nouvelle-Calédonie? Les équilibres ne peuvent pas être trahis, mais il y a l'accord et puis il y a la précision, la rédaction de l'accord. Donc il y a tout ça. Donc il y a ces travaux à mener. D'ailleurs, l'UNI a toujours dit au FLNKS qu'il pouvait être autour de la table pour continuer à travailler, à préciser, à apporter la pierre sur ces grands principes fixés dans l'accord du 12 juillet.
Virginie Ruffnac détaille l'adoption à l'Assemblée nationale en relevant que les 17 voix de l'UDR d'Éric Ciotti étaient indispensables, en saluant le soutien des LR et en s'étonnant de l'attitude du Rassemblement national. Et pour elle, il ne fait aucun doute que les provinciales de 2026 se dérouleront avec un corps électoral ouvert.
Le report, il est là pour mettre en place l'accord. L'accord prévoit à l'intérieur de nombreux principes, mais aussi effectivement l'ouverture du corps électoral. On parle en tout de 42 000 personnes en Nouvelle-Calédonie qui sont privées de ce droit de vote aujourd'hui, dont 12 000 enfants de la Nouvelle-Calédonie nés en Nouvelle-Calédonie. Les 30 000 autres personnes sont installées depuis très nombreuses années. Ce qui est prévu dans Bougival, c'est que pour les prochaines élections provinciales, sur ces 30 000 personnes qui sont exclues, seules celles qui justifient de 15 ans de présence en Nouvelle-Calédonie puissent voter. Donc nous, maintenant, nous attendons de la part de l'État de la détermination, de la fermeté à mettre en place l'accord.
Dans le calendrier de Bougival, il était prévu une réunion du congrès de Versailles en décembre. Le texte avait été inscrit en janvier par le gouvernement, qu'il a finalement retiré. Et la chef de groupe du Rassemblement au congrès dénonce cette confusion entretenue par le gouvernement. Elle va demander à la ministre l'inscription de la loi constitutionnelle et sinon, dit-elle, il faudra directement consulter les Calédoniens sur l'accord de Bougival.
On demande à la ministre de venir ici travailler, de clarifier les choses avec certains interlocuteurs, que nous nous remettions tous au travail. En effet, et puis qu'ensuite on aille vers ça. Sinon, si ça n'est pas le cas, à ce moment-là, moi, au Rassemblement en tout cas, nous serions d'accord à ce qu'on consulte les Calédoniens et que ce soit eux les juges de paix. On les consulte sur l'accord de Bougival et c'est eux qui décident si oui ou non on met en place cet accord de Bougival.
En attendant, et dans la perspective de la visite de la ministre des Outre-mer, qui était vendredi midi toujours d'actualité, Virginie Ruffnac affirme que l'État doit faire son travail à l'égard du FLNKS.
Il doit faire son travail en lui demandant quelles sont ses intentions. Ont-ils, souhaitent-ils un accord ? Je leur pose moi-même la question. Le FLNKS souhaite-t-il un accord pour la Nouvelle-Calédonie et les Calédoniens ? Il faut qu'ils clarifient leur position. On ne sait pas très bien finalement chez eux. Puis vous savez, il y a aussi autre chose. À un moment donné, nous, ça fait quand même des mois et des années maintenant qu'on discute. À un moment donné, que le FLNKS, nouvelle version, nous dit qui sont ses représentants. Parce qu'on a une délégation, puis le jour d'après, sa délégation, elle est démise et elle est remise en cause. Et finalement, on s'assoit sur ce qu'elle a fait. Donc à chaque fois, personne n'a un mandat. Donc qui a un mandat là-dedans, quoi ? Et qu'à un moment donné, ils précisent les choses et qu'il y ait des interlocuteurs qui respectent leurs paroles, qui engagent à la fois leurs paroles et les gens qu'ils sont censés représenter.
Devant le Sénat, la ministre des Outre-mer a insisté sur la nécessité de répondre aussi à la situation économique en indiquant qu'elle prépare un plan d'investissement et de redressement pour le territoire. Virginie Ruffnac l'attend sur ce terrain, mais elle partage l'irritation de nombreux élus calédoniens vis-à-vis de l'attitude de l'État et des conditions qu'il pose à l'aide économique.
Nous sommes des enfants de la République. Nous avons choisi de rester français. L'État n'était pas à nos côtés au début des émeutes, lorsqu'elles ont commencé, ce qui a fait que les émeutiers ont réalisé des dégâts considérables en Nouvelle-Calédonie. Donc cet État doit être aujourd'hui avec nous, doit nous aider à nous redresser, à nous relever et ne pas faire que nous nous enfoncions davantage. C'est indispensable ça parce que le temps politique n'est pas le temps économique. Les entreprises, elles souffrent. Il y a des gens qui sont au bout du rouleau et qui ne pourront pas tenir encore très longtemps. Certains sont sur leurs économies personnelles, sur leurs fonds propres. Donc nous attendons effectivement à la fois une politique d'engagement, d'investissement, de relance.
Une interview de Virginie Ruffnac qui sera rediffusée dans son intégralité ce soir, juste après notre édition de 17h45. Elle est aussi disponible en podcast, audio et vidéo sur notre site internet.
RRB, il est midi 9.
C'est une date spéciale dans le calendrier religieux. Le 2 novembre est la journée des défunts, une journée pour commémorer les morts et prier pour eux. En Calédonie, les familles se sont donné rendez-vous déjà hier pour la Toussaint, dans les cimetières, pour partager un moment de recueillement. La Toussaint, la fête des défunts, deux fêtes qui sont liées, nous rappelle le père François Grossin.
Il y a l'église du ciel, puis il y a l'église de la terre. Et sur le chemin entre les deux, il y a tous ceux qui nous ont quittés, qui sont passés sur l'autre rive et pour lesquels on prie. Et c'est pour cela qu'ici en Calédonie notamment, mais pas uniquement, hein, en général les tombes sont bien entretenues ou sont rénovées, sont rafraîchies hein, à l'occasion de cette fête de la Toussaint et des morts. Parce que les deux dans l'histoire de l'Église qui a 2000 ans, hein, les deux fêtes sont étroitement liées, c'est la communion des saints.
Le père François Grossin au micro Radio Rythme Bleu de Michael Juneski. À Nouméa, la place des Cocotiers était occupée par plus d'une centaine d'exposants. Ce matin, le vide-grenier du centre-ville a attiré de nombreux visiteurs à la recherche de bonnes affaires, Charlotte Coulson.
Une édition un peu spéciale, car c'est la dernière de l'année. La dernière chance pour les chineurs de trouver des occasions, à la place des Cocotiers en tout cas. Ce matin, les Calédoniens se préparaient déjà pour les fêtes de fin d'année avec leurs premiers achats de Noël à bas prix.
On est venu chercher un peu ce qui manquait pas à la maison, puis préparer les fêtes de Noël avec la nièce. On a choisi un petit sapin de Noël à 300 francs.
Eh bien voilà, les petites emplettes pour Noël, décorations mais aussi cadeaux. À petit prix ou même si vraiment, là j'ai trouvé une cabane de poupée en bois et elle était au prix tout à fait correct, mais si ça a du charme, on peut mettre un peu plus.
Alors bah, vas-y, qu'est-ce que tu as pris ?
Alors j'ai pris un porte-clés fait en laine. On a également pris des verres. Pour Noël.
Les boules de Noël et sans des verres en fait, voilà, en boules de Noël.
Ces brocanteurs ont trouvé leur compte, notamment au stand des Mamans Roses qui préparent elles aussi les fêtes de Noël pour les enfants hospitalisés.
En fait, nous avons reçu des dons, hein, des articles de Noël que nous vendons justement pour pouvoir récolter des pièces. C'est une période très difficile pour nous puisqu'en fait nous faisons tous les services, nous allons offrir des cadeaux et en maternité et en pédiatrie, en gériatrie, en oncologie, voilà. Et en fait tout le mois de décembre est archi complet justement pour passer dans tous ces services et leur offrir des cadeaux.
Stella, la présidente de l'association des Mamans Roses. Il s'agissait donc du dernier vide-grenier du centre-ville de l'année, mais il reviendra l'année prochaine avec ce même rendez-vous donné tous les premiers dimanches du mois.
Radio Rythme Bleu, il est 12h12. On va marquer une première pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité en métropole et dans le monde.
Peugeot, Subaru, Citroën, Chevrolet, Isuzu et plein d'autres grandes marques automobiles vous donnent rendez-vous les 6, 7 et 8 novembre prochains pour le Salon du Village Automobile. Le Salon du Village Automobile, c'est l'événement auto de l'année. 11 grandes marques sur un seul site, un grand parc de véhicules d'occasion, des offres uniques jusqu'à 1 million de francs de remise et nos partenaires financiers pour simplifier vos projets. Ambiance festive, animation, jeux, surprises pour toute la famille et 700 000 francs de carburant à gagner. Ouvert de 7h30 à 18h, entrée gratuite. Le Salon du Village Automobile, c'est du 6 au 8 novembre au PK4 à Nouméa.
Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Jeux gratuits sans obligation d'achat. Tirage au sort le 14 novembre. Valeur totale du lot 700 000 francs. Règlement disponible sur cph.nc ou chez Maître Citrita.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal avec Lionel Sabot.
Et les suites de l'enquête après le vol des bijoux au Louvre il y a 2 semaines. 5 personnes avaient été interpellées en début de semaine, toutes soupçonnées bien sûr d'avoir participé à ce cambriolage rocambolesque. Parmi elles, 2 ont été mises en examen. Antoine Bienveau pour Europe 1.
L'une de ces 2 personnes se trouve être un homme de 37 ans qui pourrait être le 3e membre du commando ayant dérobé les œuvres d'art. Connu de l'autorité judiciaire pour des faits de vol, il a sollicité ce qu'on appelle un débat différé et a donc été placé en détention provisoire en attente de l'audience prévue dans les prochains jours. Une 2e personne, une femme cette fois de 38 ans, originaire de La Courneuve, a aussi été mise en examen pour les mêmes faits, vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue d'un crime. Lors du prononcé de la décision, la magistrate a évoqué un ADN de transfert qui pourrait être le fruit d'une contamination indirecte. Cette dernière a motivé l'incarcération par un risque de concertation et de troubles à l'ordre public. Selon la procureure de Paris, Laure Bécaud, cette femme, tout comme l'homme de 37 ans, conteste à ce stade fermement toute implication. 3 autres personnes interpellées mercredi soir ont en revanche été remises en liberté par la justice sans poursuite. Près de 2 semaines après les faits, les bijoux estimés à 88 millions d'euros reste pour leur part introuvable. Les enquêteurs tentent toujours d'obtenir des aveux de la part des 2 suspects interpellés la semaine dernière alors qu'ils prévoyaient de s'enfuir hors de France.
Antoine Biavo du service police-justice d'Europe a noté que le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunes, a indiqué ce matin qu'il gardait espoir de retrouver les bijoux. Le butin est estimé, je vous le rappelle, à quelque 88 millions d'euros. Dans l'actualité également, un homme suspecté d'être un relais de Daesh en France, mis en examen cette semaine. Annonce faite par le parquet national antiterroriste. L'individu de nationalité afghane a été interpellé dans un centre de rétention administrative à Lyon. Il est soupçonné d'avoir financé des djihadistes via des envois d'argent vers l'étranger. Il aurait aussi édité, traduit et diffusé sur les réseaux sociaux de la propagande, dont des vidéos appelant à commettre des exactions en Occident pour le compte de l'État islamique. Jean-Charles Brizard est le président du Centre d'analyse du terrorisme.
C'est une organisation qui est capable d'activer des individus, c'est-à-dire de téléguider une menace à l'étranger. Elle se distingue également par une capacité de mobilisation et de recrutement très importante. Pour la France, c'est l'un des principaux acteurs de menaces terroristes aujourd'hui.
Charles Brizard, le président du Centre d'analyse du terrorisme. J'ajoute que l'homme mis en examen nie toute appartenance à l'État islamique. Il a été placé en détention provisoire pour association de malfaiteurs terroristes criminels et financement du terrorisme. En bref, dans le Tarn-et-Garonne, un homme a semé le trouble dimanche dernier au cœur de l'abbaye Saint-Pierre de Moissac. Face à une religieuse, il a proféré des menaces et poussé des cris au cœur de la nef. Une scène qui continue de susciter l'indignation. Le procureur de Montauban a pourtant choisi de classer l'affaire sans suite. Et puis ces violences urbaines qui ont éclaté dans plusieurs communes de la Drôme à l'occasion des fêtes d'Halloween. À Montélimar, des policiers ont été visés par des tirs de mortiers d'artifice. À Valence ainsi qu'à Bourg-les-Valence, ce sont plusieurs feux de poubelle qui ont été allumés. Venons-en à l'actualité politique et cette déclaration ce matin de Sébastien Lecornu à la presse. On peut chuter à n'importe quel moment sur le budget, affirme le chef du gouvernement. Le Premier ministre qui croit encore à une stratégie des petits pas pour aboutir à ce qu'il appelle un budget de transition. Une réunion entre ses ministres et des représentants des groupes politiques doit se tenir la semaine prochaine pour tenter de trouver un compromis. Rappelons qu'hier, les députés ont voté un amendement surprise qui transforme l'impôt sur la fortune immobilière en impôt sur la fortune improductive, mesure adoptée grâce à une alliance très large allant du Rassemblement national au Parti socialiste. Ce matin, le ministre de l'Économie, Roland Lescure, affirme que cet impôt est une mesure inopérante et qu'elle s'apparente, et je cite, de sorcellerie fiscale. Fin de citation. C'était Halloween. En métropole encore, venons-en aux célébrations de la fête de la Toussaint avec une visite dans un cimetière assez particulier. C'est en Bretagne. Là-bas, les sépultures se trouvent au pied d'arbres plantés lors de l'inhumation des défunts. Dans ce cimetière situé dans le Morbihan, on vient se recueillir comme on irait marcher en forêt. Il n'existe que 3 cimetières de ce type en métropole. Reportage Sandrine Prioul pour Europe 1.
Le vent dans les feuilles de chêne, le carillon sur les branches d'érable ou d'olivier, 120 espèces d'arbres, hauts jusqu'à 10 mètres pour une sépulture avec vue sur la mer. C'est là que Raymond viendra rejoindre son mari.
Mon mari est décédé. On est arrivé ici après l'enterrement. Il y avait mes 2 enfants et mes 4 petits-enfants. Et les petits étaient dévastés. Hein. Et quand on est arrivé, ils se sont mis à faire la roue. Il y a une jeune fille enterrée là. Ses parents sont venus avec tous les amis. Ils ont fait des crêpes. C'est la vie qui est là, en fait.
Des crêpes, des concerts aussi. Aujourd'hui, Christian Hoc savoure de revenir lire à l'ombre de l'arbre de sa femme. Et ce, après des années d'imbroglio juridique. Car ce parc cinéraire est d'abord né du business d'entrepreneurs véreux et a bien failli être délaissé aux herbes hautes et aux sangliers.
On est propriétaire de l'arbre et on a 1,10 m autour de chaque arbre parce que ça permet d'avoir la place de mettre les urnes biodégradables. Au bout de 4 à 5 ans, il n'y a plus rien au pied.
Une petite forêt de 4 hectares, désormais entretenue par la mairie, où chaque visiteur vous confie son souhait de pouvoir s'offrir l'éternité en ce lieu. Plunérette, Sandrine Prioul, Europe 1.
Venons-en à l'actualité dans la région Pacifique. En Australie, une vaste opération de nettoyage est en cours dans la région de Brisbane, capitale du Queensland, où de violents orages ont causé des dégâts considérables. C'était hier après-midi. Correspondance Jean-Pierre Zajac.
Ces orages étaient accompagnés de chutes de véritables blocs de glace, dont certains mesuraient près de 10 cm de diamètre, qui ont défoncé pare-brise, fenêtres, vitrines et toitures. De violentes bourrasques de vent ont également déraciné des arbres et endommagé les toits de centaines de maisons. Plusieurs personnes ont été hospitalisées après avoir été blessées à la tête et aux épaules par les averses de grêle. Des milliers d'usagers étaient toujours privés d'électricité ce matin et, à en croire les sociétés d'énergie, la remise en état du réseau devrait prendre plusieurs jours. Les équipes de voirie s'activent, quant à elles, à déblayer les rues des débris qui les jonchent. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
En bref, et toujours à l'étranger, le président sud-coréen a appelé son homologue chinois Xi Jinping à aider à la reprise du dialogue avec la Corée du Nord. Séoul qui insiste sur la nécessité de la stabilité dans cette région. La Corée du Nord qui reste officiellement en guerre avec son voisin du Sud. Ce triste record, celui du nombre de missiles russes visant l'Ukraine en un mois, 270 en octobre, un chiffre au plus haut depuis 2 ans et demi et surtout en hausse de 46% par rapport au mois de septembre. Enfin, les États-Unis n'enverront pas de représentants de haut niveau à la COP30 organisée au Brésil dans une dizaine de jours. Annonce faite aujourd'hui par un responsable de la Maison-Blanche au motif que Donald Trump, et je cite, « dialogue directement avec les dirigeants du monde entier sur les questions d'énergie ». Fin de citation. Il est midi 20, une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, toute l'actualité sportive.
Jusqu'au vendredi 14 novembre, gagnez un iPhone 16 128Go, cadeau d'une valeur de 119 990 francs, offert par Mobilemania. Pour jouer, c'est facile, envoyez chance au 40-20. Tirage au sort le 14 novembre à 14h, 371 francs le SMS. Toutes les actus sur Facebook. Téléphonie, informatique et multimédia, Mobilemania, c'est 5 magasins. Magenta, Centre-Ville, Place des Cocotiers et Galerie Nouméa Centre, Sainte-Marie et Robinson. Mobilemania, vivez mobile. Pour jouer, envoyez chance au 40-20. Et sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal avec Lionel Sabot.
Et on va parler sport et rugby avec la 9e journée du Top 14.
Vibrez au rythme du rugby avec Société Générale, partenaire majeur du Top 14. À vos côtés sur le terrain comme dans la vie.
Et la sensation du jour, c'est la nouvelle démonstration de Toulouse. C'était face au Stade français qui était pourtant co-leader du classement avant ce match, Mickaël.
Exactement, le duel des deux équipes qui occupaient la première place du podium a tourné court. Même privé de ses internationaux, l'indomptable Stade toulousain du Calédonien Rodrigue Néty a décroché ce succès probant 29-17 sur ses terres, 4 essais à la clé. Pourtant, les joueurs du Stade français ont tenté de faire bonne figure, ce dont se satisfait l'ouvreur du club parisien Louis Carbonel.
Je pense qu'on peut être fier de nous, on a tenu la dragée haute à Toulouse, c'est une très bonne équipe, on a vu encore, même s'il leur manquait quelques joueurs, ils ont quand même la moitié d'équipe qui est internationale, donc non, on est content, on est fier. Après c'est dommage parce qu'à la mi-temps on espérait un peu plus, mais on a été trop disciplinés, je pense qu'il nous manquait un peu de tenir le ballon un peu plus, mais c'est dommage, je pense qu'on peut être fier ce soir.
Les autres résultats et déjà ce carton de Toulon face à Lyon, 54-21, les Toulonnais qui se repositionnent à la 6e place du championnat. Bayonne n'a pas tremblé face au promu Montauban, victoire 49-7. L'Union Bordeaux-Bègles s'est imposé sur le terrain de Castres, 28-26, score très serré, hein. Et puis Clermont a aussi décroché une victoire précieuse à l'extérieur contre Montpellier, 9-7. Perpignan a été battu par la section paloise, 27-23. La dernière affiche opposera demain La Rochelle au Racing 92, dès 7h pour nous. En attendant, Toulouse devance donc au classement Pau et l'UBB. Bayonne est 4e, le Stade français retombe en 5e position. Le RC Toulon complète le top 6.
Le rugby encore, Mickaël, avec le début de la tournée de novembre. Ça tombe bien, on est en novembre pour les équipes nationales.
Et on retiendra déjà cette très lourde défaite des Wallabies, Australiens contre l'Angleterre, 25-7. Les Springboks sud-africains n'ont fait qu'une bouchée du Japon. Victoire des doubles champions du monde en titre sur le score de 61-7. Les Sud-Africains qui seront au menu des Bleus dans cette tournée d'automne le week-end prochain. L'Irlande s'est inclinée contre les All Blacks, 26-13. Une rencontre qui était organisée à Chicago aux États-Unis. Et justement, de son côté, l'équipe des États-Unis s'est inclinée, elle, face à l'Écosse, 85-0.
Allez, on passe au football avec le début de la 11e journée du championnat de France de Ligue 1. Fortune diverse pour les clubs sur le podium. Ce dimanche, le PSG poursuit sa marche en avant.
Le Paris Saint-Germain qui a dû attendre, hein, toutefois les arrêts de jeu avant de prendre le dessus sur l'OGC Nice, 1-0 grâce à un but de Ramos à la 94e minute. Malgré sa domination dans la partie, la victoire a été difficile à décrocher pour ce champion d'Europe qui a probablement déjà la tête tournée vers le Bayern Munich mercredi matin. Ce succès permet tout de même aux Parisiens parisiens de rester leader du classement pour le compte de cette 9e journée. Autre résultat, et là c'est une surprise, l'AS Monaco qui s'est incliné à domicile face à l'autre club de la capitale, le Paris FC. Le promu en Ligue 1 s'est imposé 1-0. Les Monégasques perdent des points précieux dans l'optique de rester sur le podium du championnat de France derrière le PSG. Et de son côté, l'OM l'a emporté à Auxerre 1-0 également. Les Marseillais qui donc s'emparent de la 2e place du classement. Toutes les autres rencontres se disputeront ce soir et demain matin.
En tennis, on connaît l'affiche de la finale du Masters 1000 de Paris. Le titre se disputera ce soir entre le numéro 2 mondial italien Yannick Sinner et le Canadien Félix Auger-Aliassime. Sinner a dominé l'Allemand Alexander Zverev 6-0, 6-1. Auger-Aliassime l'a emporté sur le Kazakh Alexander Bublik 7-6, 6-4. Du côté du sport calédonien, Mickaël, on va parler équitation avec les championnats de Calédonie de dressage qui se poursuivent à Dimbéa.
L'une des dernières compétitions de l'année qui oppose au Yala Range les cavaliers dans des programmes imposés mais aussi des programmes musicaux laissant libre cours à un peu plus de fantaisie. Participer, c'est déjà une belle satisfaction pour Mylène Mermoud, cavalière au Yala Range au club de la CD.
Le dressage, c'est l'aboutissement d'un travail de toute une année. Il faut faire du dressage pour pouvoir après sauter correctement parce que c'est un lien entre l'animal et la personne. Très important. C'est surtout le stress qui joue beaucoup parce que c'est des choses qu'on sait faire, qu'on a répété plusieurs fois. Mais le jour de la compétition, on est plus stressé, le cheval le ressent et puis on ne fait pas forcément ce qu'il faut au bon moment.
Vous n'êtes pas toute seule, c'est un travail d'équipe.
Exactement, c'est Cadix de la Wimbou, une superbe jument que j'ai depuis maintenant 7 ans et qui m'apporte un bonheur immense. Je vous dis, c'est le lien entre l'animal et la personne. Et heureusement qu'il y a ça dans ma vie en tout cas.
Une compétition qui arrive en fin d'année mais qui garde une importance toute particulière pour Thibaut Damas, le conseiller technique du comité d'équitation.
Donc ce championnat là, il se situe après la semaine du cheval, donc en fin d'année. Ce week-end là, on a 30 partants pour cette discipline de dressage qui est malheureusement un petit peu en perte de vitesse. Donc on va essayer de trouver des moyens pour l'entretenir au mieux et qu'elle puisse perdurer le plus longtemps possible. Le dressage, il faut exécuter des figures, donc c'est la base, c'est la base de toute équitation. Donc que ce soit sur un carré de dressage, faire une volte, c'est-à-dire un rond ou un tournant en CSO, il faut de la rigueur et de la précision. C'est vraiment très 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 important et j'invite les cavaliers à prendre un petit peu goût, prendre l'importance de cette discipline pour, quelle que soit la discipline, pour améliorer leur équitation. Donc il faut absolument qu'on relance ça pour pouvoir, même pour les autres disciplines, retrouver le niveau qu'on a un petit peu perdu ces dernières années.
Un des championnats de dressage qui se déroule avec une trentaine d'engagés depuis le début du week-end.
C'est extrêmement impressionnant le dressage en équitation, vraiment. Côté Lagon à présent, les portes ouvertes du Catamaran Club de Dimbéa. C'est aujourd'hui, les curieux peuvent venir découvrir les installations et les membres du club sur la base nautique de la Côte Blanche et certains ne voulaient pas manquer ce rendez-vous.
On est très contents de venir tester, de profiter de cette opportunité, c'est génial. En plus, il fait super beau, le vent a l'air idéal, donc on est ravis.
C'est une première pour moi, et puis, on profite en famille, là. Ça va le faire.
On est venu voir pour faire un stage d'initiation.
Vous avez déjà pratiqué
non,
ou
c'est... Jamais, c'est la première fois. C'est l'occasion, c'est une très belle occasion.
On a décidé d'essayer de faire profiter aux enfants de la chance d'être en Nouvelle-Calédonie et d'avoir cette journée porte ouverte pour découvrir une embarcation qu'ils ne connaissent pas, donc un stage d'optimiste. Aux dernières vacances, donc ça permet de faire ça en famille sur une journée exceptionnelle.
Comment tu t'appelles toi ?
Gaëlle.
Et toi, comment tu t'appelles ?
Je m'appelle Lilia. Oui, je fais de l'optimiste.
Et alors, tu as bien aimé ?
Oui, j'adore.
On profite en famille, il n'y a pas de plaisir s'il n'est pas partagé, quoi.
Et des portes ouvertes du Catamaran Club de Nouméa qui se poursuivent avec notamment des baptêmes de voile gratuits jusqu'à 16h cet après-midi, c'est donc à la Côte Blanche. Et puis, le monde du football calédonien est en deuil. On a appris ce matin la disparition de l'ancien sélectionneur de l'équipe de Nouvelle-Calédonie, Thierry Sardot.
La Fédération calédonienne qui a annoncé aujourd'hui avoir appris le décès de Thierry Sardot, ancien sélectionneur donc de la Nouvelle-Calédonie de 2016 à 2019, passé notamment par les clubs de Moulisport, de l'AS Mondor, de l'Aslossi de Tigasport, avant de rejoindre la métropole où il était le manager général du club d'Infi de Cise. Thierry Sardot est mort des suites d'une longue maladie à l'âge de 58 ans. La Fédération calédonienne de football adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.